Radio Prague, les informations.
Pavel Bém a été réélu sans surprise maire de la capitale. Le litige entre la République tchèque et la banque Nomura est enfin réglé. Et puis la mode tchèque est à l'honneur à New York. Pavel Bém, maire sortant de la ville de Prague, a été réélu sans surprise ce jeudi après le vote des conseillers municipaux élus le mois dernier. Dans la capitale, son parti avait remporté plus de 54% des suffrages. Pavel Bém, devenu entre-temps premier vice-président du Parti civique démocrate, a obtenu 49 voix sur 69. Son seul adversaire, le communiste František Hofmann, avait retiré sa candidature. La République tchèque et le groupe d'investissement japonais Nomura ont trouvé un accord pour mettre fin au litige qui les opposait depuis 6 ans. Nomura accusait Prague de ne pas avoir suffisamment protégé ses investissements lorsque le groupe possédait la moitié du capital de la banque IPB. Les deux parties se sont engagées à arrêter toute poursuite. Un 25e cas d'encéphalite spongiforme bovine, plus connu sous le nom de la maladie de la vache folle, a été confirmé dans le pays. Les autorités vétérinaires ont précisé que la bête infectée par la maladie provenait du nord-est de la Bohême. 200 vaches ont été abattues par mesure de précaution. Les sénateurs ont voté aujourd'hui la loi visant à augmenter les taxes sur le tabac. Le paquet de cigarettes devrait ainsi augmenter d'une dizaine de couronnes en moyenne. Un défilé de mode réunissant les créations de 4 stylistes de mode tchèques a lieu à New York. Un défilé intitulé Czech Bene Fashion 2006, organisé avec une vente aux enchères dont les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives. Et parmi les invités sont notamment attendus Václav Havel, la nouvelle Miss World tchèque Tatiana Kuchařová, la top modèle Petra Němcová ou encore Ivana Trump. Presque 400 000 personnes en République tchèque utilisent la technologie Wi-Fi pour se connecter à Internet. C'est ce qu'a montré une enquête réalisée par la compagnie locale de télécommunications Radio Komunikace. L'accès Internet Wi-Fi est le deuxième type de connexion à haut débit le plus favorisé dans le pays, après l'ADSL, qui est actuellement utilisé par plus de 450 000 abonnés. Le nombre des abonnés Internet tchèques par câble est estimé à environ 200 000. On passe maintenant au sport avec du football et la Coupe de l'UEFA, le match entre Mladá Boleslav et Paris Saint-Germain. Après les graves incidents de la semaine dernière dans la capitale française, le déplacement des supporters parisiens en Bohême sera effectué sous haute surveillance policière. La dernière équipe française à s'être rendue sur le terrain de Mladá Boleslav, l'Olympique de Marseille, avait encaissé 4 buts et fait ainsi sortir de la compétition il y a 2 mois. On termine ce bulletin avec la météo. Un ciel partiellement dégagé et des températures maximales comprises entre 6 et 10 degrés sont annoncées pour ce vendredi. Ce vendredi qui est le jour de fête des IVA en République tchèque. C'était Alexis Rosenzweig pour le bulletin d'information.
Fêtes et événements en République tchèque. Magdalena Hrozinková.
Merci d'écouter Radio Prague. À la une de l'actualité, l'éventuelle abolition des visas américains pour les Tchèques. Le sujet a été évoqué par le président américain en marge du sommet de l'OTAN. Au menu également le retard pris par la République tchèque dans l'adoption du plan national d'allocation des quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Nous passerons ensuite au football. Mladá Boleslav accueille ce jeudi l'équipe française du Paris Saint-Germain à l'occasion de la 4e journée de la Coupe UEFA. Comment la ville s'était préparée au match? Réponse dans quelques minutes. Nous évoquerons aussi la rénovation de la gare centrale de Prague et un festival de jazz à Paris initié par le Centre tchèque. Au sommet de l'OTAN qui vient de prendre fin à Riga, l'Afghanistan était au centre des débats. La République tchèque compte d'ailleurs augmenter sa participation militaire. Pourtant, la question des visas d'entrée aux États-Unis, soulevée par le président américain, a aussi suscité l'attention. Alain Slivanski.
À quand la fin de l'obligation du visa d'entrée aux États-Unis pour les citoyens tchèques et ceux d'autres pays membres de l'Union européenne? Au sommet de l'OTAN à Riga, le président des États-Unis George Bush a annoncé que son pays envisageait de modifier sa politique de visa. Une question qui concerne directement la République tchèque, dont les citoyens subissent l'obligation contraignante de la demande d'un visa pour tous les voyages de moins de 90 jours, alors que les Américains n'en ont pas besoin pour séjourner en Tchéquie. À Riga, le président de la République tchèque, Václav Klaus, a brièvement rencontré son homologue américain. Ce dernier l'a assuré que l'abolition des visas pour la Tchéquie et les nouveaux membres de l'Union européenne pourrait être adoptée, bien que certaines complications soient attendues au Congrès, comme le souligne le chef de l'État tchèque. Le problème réside dans la loi ordonnant l'exemption de visa seulement pour les pays dont seulement moins de 3% de demandes sont refusées. Actuellement, dans les 10% de demandes de visa présentées à l'ambassade des États-Unis en République tchèque sont refusées. D'après George Bush, il est nécessaire de changer ces dispositions de la loi au profit du renforcement des critères de sécurité. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Alexander Vondra, est persuadé que cela est réaliste, surtout après la victoire des démocrates, lors des dernières élections américaines, il y a 3 semaines. Pour lui, le plus important est qu'on insiste, outre-mer, sur la sécurité, une priorité des États-Unis aujourd'hui, comme le confirme d'ailleurs leur ambassadeur à Prague, Richard Graeber.
The president made a significant announcement today. He announced that he was willing to
Le président a fait une déclaration importante en annonçant qu'il allait œuvrer avec le Congrès pour arriver à une modification de la loi sur l'obligation de visa en faveur de la sécurité. L'ambassadeur américain ajoute pourtant que cela pourrait durer un certain temps, car il faut modifier un texte juridique. On ne peut le faire aux États-Unis, comme ailleurs, du jour au lendemain. De toute manière, il est persuadé que c'est une bonne nouvelle pour la République tchèque.
Depuis 2005, les États membres de l'Union européenne doivent se doter d'un registre national de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, pour la période 2005-2007, les entreprises tchèques soumises au système d'échange de ces quotas se sont vues allouer au total 97,6 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an. Pour la période suivante, allant de 2008 à 2012, chaque pays de l'Union européenne avait jusqu'au 30 juin dernier pour remettre à la Commission européenne son deuxième plan national d'allocation des quotas. Or, la République tchèque, au même titre que la Hongrie, l'Italie, l'Autriche, le Danemark ou l'Espagne, n'a toujours pas rempli cette obligation. Un retard qui pourrait coûter cher, la Tchéquie risque de se faire pénaliser par la Cour européenne de justice. L'amende infligée à Prague correspondrait au prix des quotas d'émissions de CO2 qui s'élèvent, eux, à plusieurs dizaines de milliards de couronnes tchèques. Si les écologistes, à Prague comme ailleurs en Europe, prônent pour un système plus sévère des allocations des quotas, qui obligerait les entreprises polluantes à investir davantage dans la réduction des émissions de CO2, les autorités tchèques vont à contresens de ces initiatives. Après avoir enfin élaboré une première version du plan national, dont la foulée des pourparlers pour le prochain gouvernement, les ministères tchèques concernés s'apprêtent à demander une augmentation du volume des émissions à 102 tonnes de CO2 par an, chiffre qui dépasse largement la production de dioxyde de carbone enregistrée l'année dernière. Si le gouvernement réussit à entamer les négociations avec la Commission européenne d'ici à la fin de l'année, les sanctions de la part de celle-ci pourraient encore être évitées. Après avoir éliminé à la surprise générale l'Olympique de Marseille au premier tour, Mladá Boleslav accueille une autre équipe française, le Paris Saint-Germain, jeudi soir à l'occasion de la 4e journée de la Coupe UEFA. Une rencontre capitale pour les deux formations dans l'optique de la qualification, mais dont l'enjeu est éclipsé par la venue des supporters parisiens, Guillaume Narguet.
La mort du supporter parisien tué par un policier aux abords du Parc des Princes jeudi dernier à la sortie du match PSG à Poel Tel Aviv n'est pas passé inaperçu dans les médias tchèques. Une semaine plus tard, alors que 250 à 300 fans du club de la capitale française ont fait le déplacement jusqu'à Mladá Boleslav à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Prague, le quotidien Lidové Noviny consacrait une page entière non pas à la présentation du match mais à la réputation des ultras parisiens. En dessous d'une photo d'archive montrant les hooligans de la tribune Boulogne s'en prendre aux forces de l'ordre et d'une autre avec à la une de samedi dernier du quotidien L'Équipe barré du titre « Quand le football tue », le journal se demande lui aussi en grand titre si Boleslav résistera aux radicaux du PSG. De leur côté, les dirigeants tchèques se veulent rassurants. Jusqu'à quelques heures du coup d'envoi, ils ont laissé le message suivant « N'ayez pas peur des fans parisiens » sur la page d'accueil du site internet du club, invitant leurs supporters, assurément beaucoup plus paisibles et pacifiques que leurs collègues français, à remplir le petit stade de 5000 places. Bien que classé à haut risque, comme tous les matchs de Coupe d'Europe qui se sont déroulés depuis le début de saison dans la petite ville, siège traditionnel du constructeur automobile Škoda, le match ne fait l'objet d'aucune disposition particulière, comme l'a confirmé le directeur sportif de Mladá Boleslav Zdeněk Kudela.
Je pense que tout le monde en République tchèque a noté ce qui s'est passé la semaine dernière à Paris après le match contre Hapoël Tel Aviv. Ce sont de bien tristes événements. Nous savons que le Paris Saint-Germain dispose d'un noyau de supporters, si on peut les appeler comme ça, très agressifs. Nous nous préparons à leur venue et connaissons leur réputation, mais pour autant, nous n'aurons pas de dispositif de sécurité différent de ceux que nous avons mis en place lors des précédents matchs de Coupe d'Europe et même de championnat. Nous sommes donc prêts à vivre une journée bien chargée, mais je suis persuadé que tout se passera aussi bien que lors des autres rencontres. Et puis, en cas de problème, j'ai toute confiance en le savoir-faire de nos unités chargées de la sécurité ainsi qu'en notre collaboration avec la police.
Les supporters parisiens n'auront donc qu'à bien se tenir.
La gare centrale de Prague suscite depuis des années la critique justifiée des passagers et des trains et des habitants de la capitale. Le bâtiment à l'architecture somptueuse, qui est un joyau de l'art nouveau pragois, abrite aujourd'hui des espaces dont l'entretien et la propreté laissent à désirer. Le débat sur la reconstruction de la gare se poursuit depuis des années et il semble aujourd'hui qu'on passe enfin à l'action. Les travaux de reconstruction qui doivent commencer dans 15 jours seront réalisés sans interruption du trafic à la gare. Václav Richter.
Œuvre de l'architecte Josef Fanta, la gare a été terminée en 1909. Son architecture a été très appréciée et a suscité l'admiration du grand Le Corbusier lors de sa visite à Prague. Dans les années 1970, elle a été reconstruite et agrandie car elle n'arrivait plus à satisfaire les besoins des transports de la capitale. Au cours des dernières décennies, elle a souvent été la cible des critiques. On lui reprochait la lenteur des services, la vétusté, le manque de confort, l'insécurité. Comme toutes les grandes gares qui restent ouvertes la nuit, elle attirait des individus douteux pratiquant la prostitution et le trafic de drogue. Elle a été le rendez-vous des SDF. Tout cela ne devrait plus être qu'un souvenir. La société italienne Grandi Stazioni, qui a remporté l'appel d'offres en 2002, entamera les travaux le 14 décembre prochain. La reconstruction de la gare centrale est pour nous un grand défi. C'est un mariage de la beauté de l'architecture Art Nouveau et d'une gare moderne qui sera recherchée par les passagers et les habitants de Prague, affirme le chef de l'entreprise Enrico Aliotti, cité par le journal Mladá Fronta Dnes. Selon le directeur, la réalisation du projet prendra 4 ans, mais dès 2008, les passagers pourront acheter leurs billets au nouveau guichet qui rappelleront ceux d'un terminal d'aéroport. À partir de 2010, la gare sera louée à Grandi Stazioni, qui l'exploitera commercialement. Les kiosques de journaux et de restauration rapide du hall central seront remplacés par des magasins de luxe en verre et acier, des restaurants et des cafés. La gare doit devenir un centre commercial et culturel. On procédera également à un grand remaniement de ses environs, et notamment du parc devant le bâtiment, qui devient souvent le refuge des sans-abri et que les passagers arrivant à Prague préfèrent éviter. Selon une statistique de České dráhy, la société des chemins de fer tchèque, quelques 100 000 personnes se rendent en moyenne à la gare centrale chaque jour. Le porte-parole de České dráhy, Aleš Ondruj, estime cependant que ce nombre pourrait augmenter jusqu'à 150 000, car on y viendra à l'avenir non seulement pour prendre le train, mais aussi pour des achats, des rendez-vous d'affaires ou tout simplement pour prendre un déjeuner. Une perspective alléchante, certes, que devraient garder à l'esprit les voyageurs qui seront désormais obligés de s'accommoder de tous les désagréments possibles dans cette gare transformée pour 4 ans en un immense chantier.
Pour la quatrième année consécutive, le Centre Tchèque à Paris a co-organisé en ce mois de novembre le Festival international de jazz Jazzy Colors, manifestation initiée par son directeur Michael Werner Pospichel. La fête qui s'est terminée le week-end dernier a réuni les musiciens de 17 pays, dont par exemple le saxophoniste Joël Miller du Canada, le Tintin Quintet de Hongrie, une des formations d'ethno-jazz les plus connues en Europe, ou encore le trio suisse Korkschutz-Studer, qui se situe dans la zone musicale freestyle electro-rock. Dans quelques instants, je vous ferai écouter le très prestigieux Quatuor de Milan Svoboda, un des meilleurs ensembles de jazz en République tchèque, qui s'est produit justement au centre tchèque, rue Bonaparte. À noter que les concerts ont eu lieu dans plusieurs salles à Paris, dans les centres culturels hongrois, finlandais et suédois, à l'Institut Cervantes, mais aussi et surtout au club Le Duc des Lombards, qui passe pour un lieu mythique du jazz dans la capitale française. Et maintenant, place à Milan Svoboda, pianiste, chef d'orchestre et compositeur pour le théâtre et le cinéma, ainsi qu'au quatuor qui dirige. Le quatuor de jazz de Milan Svoboda dans Fais événements en République tchèque. Je vous souhaite une excellente écoute de la suite du programme de Radio Prague en compagnie de Jarka Gregorova.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres. Jarka Gregorova.
Les Wagner, une vraie saga de grands artistes. Rappelons Antonín Pavel Wagner, sculpteur du XIXe siècle dont les allégories décorent le Théâtre national de Prague. Ses statues de Michel-Ange et d'Hercule ainsi que la fontaine se trouvent à Vienne. Le grand sculpteur Joseph Wagner et son fils aîné Joseph, peintre remarquable, ont déjà été présentés dans le cadre de cette émission. Aujourd'hui, la rubrique est donc consacrée à Jan Wagner, sculpteur et professeur à l'école de sculpteurs et de tailleurs de pierre à Hořice. L'artiste a exposé ses œuvres au Mexique, aux Pays-Bas, en Suède, en Finlande, en Suisse, à Paris, en Autriche, en Pologne et dans bien d'autres pays encore. L'un de ses plus grands succès fut l'exposition « Contact réceptif » organisée en octobre 1987 à l'Académie de Vienne. En 1984, l'Académie de Vienne lui a remis le titre honorifique de maître des arts. La technique de Jan Wagner était excellente, sa maîtrise de la matière parfaite et précise. La création de certaines de ces plastiques en métal a même pris plusieurs années. Parfois, les objets créés par l'artiste sont vraiment originaux. Par exemple, l'adaptateur papillon ou le rasoir mécanique, objet doublé de cuir qui peut servir de radio portable, rasoir mécanique avec récipient intégré à l'alcool. Le thème du papillon symbolise l'intérêt que suscite à l'artiste la génétique, la biochimie et la biotechnique. Jan Wagner a, entre autres, également créé des bijoux intéressants et des médailles. Le sujet préféré de ses œuvres resta pendant toute sa vie les chevaux qu'il aimait, montait et dont il s'occupait depuis son enfance. Souvent, il allait à cheval même à l'école. La mère et le père de Jan Wagner, nés le 22 septembre 1941 à Prague, étaient des sculpteurs remarquables, dont il a certainement hérité du talent plastique. Enfant, déjà, c'était un original. La parole est à son frère, le peintre Josef Wagner.
Byl introvert, kterého dojímal život zvířat, jejich bytí a projev. Miloval koně, pečoval o ně a dokonce s nimi.
C'était un introverti ému par la vie des animaux, leur façon d'être et de se manifester. Il aimait les chevaux, s'occupait d'eux et a même participé à plusieurs tournages en leur compagnie. Sa passion ne s'arrêtait pas aux chevaux, mais concernait tous les animaux. Je me souviens qu'il a par exemple été ému par la mort d'un merle. Il l'a formé en pâte à modeler et plus tard, il a sculpté l'oiseau dans du bois. Il s'enfermait souvent dans son atelier, c'était son micro-univers.
A později ho převedl do dřeva. Často se zavíral do své dílny, to byl jeho mikrosvět.
Jan Wagner était fasciné par la perfection du mécanisme des montres de Gousset et des pendules. D'ailleurs, dans les années 60, il réalisa une trilogie d'œuvres surréalistes, La pendule, l'horloge et l'horloge d'Enniken. Jan Wagner passe son baccalauréat à Hořice, ville située au pied des monts des géants. Puis, pendant un an, il travaille comme sculpteur sur pierre aux arts et métiers à Prague. En 1960, il commence à étudier à l'Académie des arts plastiques et prend parallèlement des leçons dans les ateliers des professeurs Vincent Smakowski et Karel Hladík. Après avoir terminé ses études à l'Académie des arts plastiques à Prague, le gouvernement autrichien lui octroie une bourse pour qu'il puisse étudier à l'Académie des arts plastiques de Vienne chez le professeur Ferdinand Welz, expert en arts médailleurs. Sa thèse vaut à Jan Wagner le premier prix de la ville de Vienne.
Technické civilizace ho ovlivnil natolik, že upustil od námětu zvířat a tím i klasického.
Le monde de la civilisation technique l'a influencé à un tel point qu'il a renoncé aux animaux en tant que sujet et donc à la forme de la sculpture classique. Mon frère est passé aux plastiques mobiles dans lesquelles il a su, grâce à son génie technique, intégrer l'humanisme romantique.
Technické genialitě přenesl svět romantického humanismu.
C'était le peintre Josef Wagner, frère aîné de l'artiste. Lors de son voyage en France en 1962, l'artiste est très impressionné par l'exposition de Jean Tinguely qu'il visite à Paris. Jean Tinguely manifeste dans ses opinions une vision ironique et critique vis-à-vis de la société technocrate. Jan Wagner n'a jamais rencontré le sculpteur suisse, leur contact étant uniquement épistolaire. Pourtant, leur rêve commun était de créer une plastique mobile du golem. Ils font des projets précis et réalistes en 1985. Leur idée ne se réalisera jamais à cause du décès prématuré des deux sculpteurs. Ses études terminées, Jan Wagner devient l'assistant du professeur Ferdinand Welz à l'Académie des arts plastiques à Vienne. En 1971, il est révoqué par les dirigeants communistes. Il revient au pays et donne des cours à l'école de sculpture et de tailleur de pierre à Hořice. 4 ans plus tard, il est encore obligé de quitter son poste pour la même raison qu'à Vienne. L'artiste se renferme sur lui-même et se consacre à la création de ses œuvres. Mais après la révolution de velours, au début des années 90, il est à nouveau invité par la direction de l'école de sculpture et de tailleur de pierre de Rožice à donner des cours. Sa vie est successivement partagée entre Rožice et Prague. Le 1er juillet 2005, le sculpteur Jan Wagner succombe à son pire ennemi, l'alcool. L'émission de Radio Prague en langue française se termine, chers auditeurs. Toute l'équipe vous remercie et nous attendons vos idées, remarques et suggestions. Écrivez-nous, contactez-nous.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in Southern